Midi. Patrick Roger.
Rebonjour et bienvenue dans Europe 1 Midi. En ce vendredi un peu frais dehors comme dans le studio. On a fait remonter la température.
Il faisait 17 degrés tout de même.
On vous dit tout. Hein. Mais on va faire monter la température et la fièvre, on l'espère en tout cas dans cette émission. Pas trop non plus, faut pas exagérer. Une heure ensemble avant midi et demi, l'heure du grand journal avec Marion Calais, Julia qui est à mes côtés, vous l'avez entendu.
Oui, bonjour à tous.
Alors je vous le disais tout à l'heure, on va prendre nos aises, hein, si je puis dire aujourd'hui, pour aborder ce qui n'est plus du tout un tabou, ou beaucoup moins, la sexualité au féminin, l'érotisation de la société chez les femmes. Le sexe est le plus illogique des besoins, disait la chanteuse Björk. Eh ben on comprend, parce qu'on s'éloigne du rationnel et c'est sans doute ce qui est compliqué à atteindre, à réussir, des fantasmes, des envies. Où en sommes-nous aujourd'hui? Des femmes libérées, vivre ses plaisirs en toute liberté. Depuis quelques années, il n'y a plus un mois, hein, sans une étude sur notre façon de vivre la sexualité. Beaucoup de sites de rencontres ou de chaînes autour du plaisir sont évidemment derrière ces enquêtes parce que c'est aussi un véritable business. Aujourd'hui, c'est fini le temps des seuls sex shops où l'on se cachait pour rentrer. Les boutiques ont fleuri, les femmes franchissent plus facilement le seuil de la porte, les ventes d'objets sexuels sur internet ont décollé, et puis la littérature s'envole aussi en ce moment. 200 000 exemplaires pour le livre, entre romans à l'eau de rose et érotique, 50 nuances de grès, 200 000 en 10 jours, les meilleures ventes à la Fnac depuis Harry Potter, les autres tomes à venir, un film en préparation. Nous parlons de cette érotisation. Le jour tient donc de la sortie de James Bond. Hein. Rien à voir, quoique, avec nos invités. Alors, nos invités aujourd'hui, Catherine Solano, médecin sexologue, co-auteur de La mécanique sexuelle des hommes aux éditions Robert Laffont. Bonjour.
Bonjour.
Philippe Breneau, psychiatre, anthropologue, président de l'Observatoire international du couple. Après Les hommes, le sexe et l'amour, il publie Les femmes, le sexe et l'amour aux éditions Les Arènes. Sorti aujourd'hui. Hein.
Bonjour, Patrick. Oui, bonjour. J'ai sorti, mais c'est toujours d'actualité.
C'est toujours d'actualité. Jeanne Cialelli, auteur de littérature érotique, elle vient de publier aux éditions Blanches Le train 84-25. En provenance de Genève, où il se passe beaucoup de choses, c'est ça. Vous allez nous raconter
effectivement. Il se passe des choses un peu violentes. Bonjour.
Et puis, vous aurez la parole tout à l'heure.
Le standard d'Europe 1 est ouvert, 39,21, 34 centimes d'euros la minute, mais également Europe1.fr et la page Facebook d'Europe 1 Midi. Sachez, Patrick, qu'il y a déjà pas mal de réactions, celles de Michael, de Michael et de Cédric. Témoignages, questions. On vous attend, 39-21.
Ouais, un peu de patience hein, quand même.
Vous aurez la parole dans quelques minutes.
Il faut un petit peu de temps. Voilà, c'est ça. À l'heure, vous aurez la parole au 39-21, évidemment, comme chaque jour. Bonjour Sandra Freeman.
Bonjour Patrick Roger. Ce sont donc que des témoignages d'hommes pour l'instant.
Pour l'instant,
sur Internet.
Sandra.
On attend, j'espère, aussi beaucoup de femmes. Bonjour Julia, bonjour à tous.
Bah oui, évidemment, des témoignages de femmes. C'est vous également qu'on attend au 39-21.
Pour prouver qu'il n'y a plus de tabou, comme vous dites.
Voilà, absolument. Ou en tout cas qu'ils sont en train de disparaître. Quoique, je n'en suis pas absolument certain. Vous reviendrez en tout cas tout à l'heure, ma chère Sandra, à midi, pour nous dire ce qui vous a frappé et interpellé pendant cette demi-heure.
Avec plaisir.
Alors, la sexualité féminine et puis la littérature érotique, Jeanne Cialelli, on en parle beaucoup effectivement en ce moment. On en parlait beaucoup moins auparavant parce que on était habitué aux livres plus machistes, hein, le Marquis de Sade, etc. Il y avait moins cette littérature. C'est un phénomène. On vous demande, vous qui êtes en relation avec les éditeurs, on vous demande parce que c'est une sorte de mode.
Je ne crois pas que ça soit une mode. Je crois qu'on a toujours écrit, oui. Mais que les écrits restaient dans les tiroirs.
Dans les tiroirs, ouais.
Voilà. Et je crois que les femmes ont beaucoup écrit et qu'elles, c'était dans le tiroir du bas. Il y avait beaucoup d'hommes qui écrivaient et ils écrivaient à la façon des hommes. Et là, nous avons tout d'un coup l'arrivée d'une autre sensibilité où les femmes voient les choses complètement différemment. Ouais. C'est-à-dire que Je continue, bien sûr. Les femmes voient les choses différemment. Les hommes sont des voyeurs, pour moi. C'est-à-dire qu'ils utilisent ce qu'ils voient, donc des mots crus. Ils vont utiliser des mots qui sont durs. Les femmes vont tenter d'expliquer ce qu'il y a derrière, leur désir profond, le pourquoi elles ont fait les choses, le comment, etc. Et ça sera plus subtil, mais probablement beaucoup plus intéressant.
Ouais. Et les éditeurs avaient peut-être des difficultés à publier, ou est-ce que c'était aussi un peu tabou? Pourtant, bon, Simone de Beauvoir avait un petit peu ouvert la porte, si je puis dire. Ensuite, Régine Desforges également. C'était assez compliqué, d'ailleurs, au moment où elle a sorti en fait quelques livres.
Hein. C'était compliqué, c'était réservé à des gens entre guillemets intellectuels. Maintenant, c'est Madame Tout le Monde qui écrit. Madame Tout le Monde a la parole et Madame Tout le Monde a beaucoup de choses à dire. Parce que, en fait, elle est restée sous le boisseau pendant un certain temps. Elle a la liberté maintenant, mais je pense que vous en parlerez dans la vie, parce qu'elle a son autonomie financière. Et l'autonomie financière lui a donné l'autonomie du plaisir et l'autonomie du désir. Et ça, c'est fantastique parce que c'est nouveau.
Oui. Mais tout à l'heure, vous me disiez, oui, ben, moi j'ai écrit beaucoup de nouvelles il y a quelques années. Je les laissais toujours quand même au fond du tiroir. Pourquoi ?
Ben, parce que vous aviez le regard à l'époque de la société, vous aviez le regard de vos enfants, de vos amis, vous disiez « je vais choquer », c'était un tabou. Tandis que maintenant, on va beaucoup plus loin. Vous ouvrez Internet, vous trouvez tellement de choses. Les éditeurs, du reste, vous avez peu d'éditeurs maintenant de contes et de récits érotiques, parce que n'importe qui peut trouver sur Internet. Mais maintenant, on a une nouvelle littérature, c'est ce dont je vous parlais, et je crois que ce qui est intéressant, enfin c'est ce que je tente de faire, c'est d'aller voir derrière les choses, c'est-à-dire derrière des choses qui étaient taboues autrefois. Comment ça se passe? Bon, pour ce qui me concerne, l'histoire est l'histoire d'un viol. Bien sûr, les yeux dans les yeux, je vous le dis, jamais je ne cautionnerai le viol et jamais je n'irai défendre ceci. Néanmoins, l'ambiguïté de ce qui se passe derrière, l'ambivalence, ce qui peut se passer pendant et après le viol, moi, m'a beaucoup intéressée et j'ai lancé mon héroïne là-dedans. Maintenant, est-ce que ça va quelque part toucher le lecteur? Je ne sais pas. Ce que je ne veux pas, c'est que ça le choque.
Et pourtant, ce que vous dites, c'est que effectivement, les hommes, eux, ont réussi en choquant, quoi. Et donc, il faut que les femmes réussissent sans véritablement choquer.
Je ne crois pas qu'on soit dans le domaine du choc pour ce qui est de notre part. On est dans le domaine. Le balancier est en train de retomber. On a revendiqué le plaisir. On a revendiqué plein de choses. Maintenant, on est bien dans nos baskets. Par contre, les hommes le sont beaucoup moins.
Ah oui, Philippe Renaud, vous le constatez.
Oui, mais je poursuis sur la littérature érotique. À la fois, je suis d'accord avec vous et avec le fait de ce que vous disiez, les hommes sont des voyeurs. Mais bien entendu, puisque les stimuli qui intéressent, qui excitent les hommes sont les stimuli visuels, mais très peu les femmes. Les femmes sont beaucoup plus sensibles au tactile, à l'auditif. Les grands-mères disaient, fais attention, ne te laisse pas raconter des sornettes, bien sûr, te laisse pas embobiner. C'est-à-dire que les hommes vont montrer, et comme vous disiez, ça choquait, parce qu'effectivement, ça choquait peu les hommes, ça pouvait choquer les femmes. Et puis ça choquait la société qui n'était pas prête. On est aujourd'hui, c'est peut-être le titre de votre émission, on est dans une société à valeur féminine. On est dans une société où il y a moins de domination des uns sur les autres, où il y a beaucoup plus d'écoute. Alors effectivement, il peut commencer à y avoir des discours. Parce que quand on voyait les premiers romans érotiques en France, je pense à deux choses. Pauline Réage écrit Histoire d'eau, qui va beaucoup intéresser les hommes, qui va être... Mais elle le publie parce que c'est quand même son histoire avec Jean Paulhan, que Jean Paulhan va permettre que ça se publie. En dehors de ça, vous n'avez aucune littérature vraiment féminine qui peut s'exprimer. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a, je suis tout à fait d'accord avec vous, le regard des femmes, le biais, la façon de voir les choses des femmes doit être connue.
Catherine Solano, un petit mot et puis on va faire une pause et on reviendra. Oui,
je
allez-y.
Pense que les hommes ne sont pas aussi différents des femmes qu'on le dit, parce que c'est vrai ce que vous dites par rapport à ce que les hommes
des
ont écrit.
Des hommes ou des femmes différents des hommes
ouais. C'est-à-dire que les hommes qui ont écrit de la littérature érotique, c'est pas n'importe quel homme, parce qu'il faut voir qu'il y a une sélection des éditeurs qui choisissaient les choses choquantes, parce que n'importe qui n'était pas éditeur de littérature érotique. Et je pense que maintenant, les hommes vont aussi investir le domaine de qu'est-ce qu'il y a derrière, parce que ça va s'élargir et il y a d'autres hommes mêmes que ceux qui écrivaient de la littérature érotique, qui vont en écrire. Et je connais un homme qui est auteur de littérature érotique et il me dit qu'il y a un écrivain qui écrit sous un autre nom la littérature érotique et il me disait « Je n'arrive pas à être publié parce que les éditeurs veulent des trucs sadomasochistes très hard. » Et moi, j'écris dans le happy sex, c'est-à-dire des choses plus joyeuses. Et ça, il n'y a pas d'éditeur pour ça. Donc, je pense qu'on est en train d'ouvrir beaucoup de choses.
Est-ce qu'il faudrait qu'il l'écrive sous un nom de femme ? Qu'il prenne un nom de plume ?
Ah, peut-être cette idée. Allez, dans un instant, on marque une petite pause et dans un instant, on poursuit notre débat. Et qu'est-ce qui a changé, bouleversé la sexualité de la femme ?
On parle effectivement du livre 50 nuances de Grey. Avez-vous lu ce livre ? Qu'en avez-vous pensé ? 39,21, 34 centimes d'euros la minute. À tout de suite pour en parler sur Europe 1. De l'humour, de l'humeur, nous sommes en direct et un petit peu de sarcasme aussi. C'est la recette des après-midi réussie sur Europe 1. C'est On va se gêner avec Laurent Ruquier et ses complices, avec entre autres aujourd'hui à 15h30, Christophe Beaugrand, Jérémy Michalak et Pierre Bénichoux. 15h30, 18h, envie de rire, On va se gêner sur Europe 1.
Europe 1 midi, 11h30, 13h. Patrick Roger.
L'érotisation de la société au féminin, la fin d'un tabou. On se pose cette question aujourd'hui jusqu'à 12h30 sur Europe 1 avec vos invités, Patrick Roger, Catherine Solano, médecin sexologue, Philippe Bruno qui est psychiatre, anthropologue, président de l'Observatoire international du couple, également avec nous, Jeanne Cialelli, auteure de littérature érotique.
La sexualité, l'érotisation de la société donc au féminin. On a commencé à en parler là tout à l'heure. On en a parlé sur Europe 1. On l'avait entendu peut-être aussi cet été. Vous allez l'entendre dans notre petit zapper quotidien de Quentin Moreau avec les chaudes nuits notamment.
Il attrapa mes épaules dans ses mains parfaites et effleura à peine mes lèvres avec les siennes. J'étais une vraie femelle, une femelle sensuelle et fougueuse. Je pressentais que j'avais devant moi un rival qui pouvait devenir un compagnon de jeu. Et qu'est-ce qui...
sur l'homme dans le sexe, c'est qu'elle peut simuler démonstration ou plus sobrement
J'aime énormément quand le partenaire est sur moi,
moi sur lui.
J'aime bien avoir le sentiment d'être un peu dominante, mais j'aime bien aussi être à quatre pattes.
Tu vas et tu viens entre mes...
Alors dans ce petit zapper, vous avez reconnu peut-être Audrey Dana, hein, dans un premier temps effectivement avec ses feuilletons de l'été dernier sur Europe 1, Anna Romanoff évidemment avec cette petite différence entre les hommes et les femmes dans l'amour. Et puis on est remonté effectivement aux années 60 avec Serge Gainsbourg. Vous le disiez tout à l'heure, Jeanne Cialelli, quand même depuis 68, on a beaucoup avancé, hein, non ? Dans la libération de la parole.
Dans la libération de la parole et dans la libération des corps, excusez-moi, mais ils existent derrière.
Oui.
Donc, si vous voulez, je crois que, bien sûr, toutes les personnes qui sont passées par Internet le savent. Les femmes, maintenant, sont capables de chercher, de chasser comme les hommes. Et c'est très bien comme ça. Et quelquefois, elles ne passent pas le pas. Mais ouais. Elles s'amusent au moins au niveau de leur fantasme à voir si ça pourrait marcher autre façon maintenant de jouer.
Et ça c'est vrai, Catherine Solano ou Philippe Bruno, dans toutes les couches en fait de la société, de la population ou pas, où c'est un phénomène un peu à la marge.
Le fait qu'il y ait moins de tabous, vous voulez dire ?
Oui, bien sûr, qu'il y ait moins de tabous et qu'il y ait ce que disait en fait à l'instant Jeanne Cialelli, c'est-à-dire que des femmes qui chassent comme les hommes chassaient entre guillemets.
Je suis pas sûre qu'elles chassent pareil. Hein. Oh là ouais. Là. Non. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de tabous maintenant. Quand vous parlez de la disparition des tabous, je dirais, j'espère que ça disparaîtra pas totalement, parce qu'il faut quand même un espèce de cadre pour vivre et pour se sentir bien. Donc en même temps, les tabous, enfin les limites, disons, sont faites pour être un petit peu transgressées, au moins un petit peu, pour que ça donne du piquant à l'existence. Mais je pense que c'est dans toutes les couches de la société qu'il y a moins de tabous, et heureusement, parce que c'était terrible avant. Hein.
Oui. Et moi, je crois qu'il faut... L'idée, c'est quand même d'essayer de trouver, non pas notre nature, parce que alors là, je vais faire bondir tout le monde, mais c'est vrai que nous sommes construits différemment. La sexualité, ce que l'on sait depuis une cinquantaine d'années, c'est que la sexualité est totalement apprise et construite socialement. Alors, c'est vrai que nous sommes des stéréotypes, bien sûr, mais ça ne changera rien, parce que, vous savez, cette notion des gender studies, vous entendez parler des études sur le genre qui disent qu'il faut enlever tout stéréotype, mais on ne pourra pas les enlever avant des siècles. Donc, on est obligé de les vivre.
Ouais.
C'est vrai que nous sommes formatés d'une certaine façon. Et je crois qu'il faut vivre harmonieusement nos différences. C'est d'ailleurs, bien sûr, plus dans la domination. Ça, c'est ce qui a changé.
Ouais.
Il y a malheureusement, moi je vois dans les deux dernières études que je viens de faire, il y a toujours, je vais dire 30% chez les hommes, 30% de mecs, il n'y a pas d'autre mot, qui continuent à être une sorte de part difficilement compressible, qui ne comprennent pas grand-chose.
C'est-à-dire
hein? Ben, c'est-à-dire qu'ils sont toujours dans des idées de domination, qui comprennent mal qu'on puisse cultiver les différences, s'approcher de... Qu'est-ce que nous prenons tous ici? C'est s'approcher de la compréhension de l'autre, de la compréhension de l'autre différent. Parce que nous serons différents de toute façon. Et je crois qu'il ne faut pas essayer d'être de la même façon. C'est-à-dire que oui, les façons de s'intéresser, de s'exciter, de jouir des hommes et des femmes seront forcément différentes, et je crois que c'est d'aller les respecter. Par contre, elles sont beaucoup plus libres.
Ouais.
Et autrefois, il faut quand même dire une chose, c'était uniquement les femmes qui étaient contraintes à ne pas les vivre.
Ouais, ouais. Oui, et puis, mais derrière, il doit toujours y avoir quand même aussi des fantasmes.
Les fantasmes existent, ils sont... moi, je crois qu'ils sont spécifiques à chacun, et pendant très longtemps, ils ont été inhibés. C'est-à-dire que les femmes fantasment certainement beaucoup plus que les hommes, mais elles n'avaient pas le droit de les exprimer. Ouais. Et je crois qu'il faut maintenant que chacun...
C'est ce qui a changé, ça. C'est ce qui a changé.
Non, mais nous parlions de contraintes. Je suis d'accord avec vous, mais maintenant, les femmes en jouent. C'est-à-dire que maintenant, c'est elles qui vont acheter des menottes, des fouets, etc.
Ouais, enfin, c'est une partie,
C'est une partie, mais c'est une partie qui n'est pas du tout négligeable. Quand vous regardez dans les tables de nuit, on trouve maintenant des sextoys et on ne les trouvait pas autrefois.
Mais ça ne veut pas dire que cette partie chez les hommes
sont importantes
non plus.
Parce qu'ils sont à disposition, parce que la société s'est ouverte, en fait. C'est ça, hein, ce que vous voulez dire. Avant, c'était peut-être plus compliqué.
Bien sûr, mais même entre mari et femme, maintenant, on en parle. Maintenant, dans un dîner parisien ou provincial, du reste, on parle de ça dès les hors-d'œuvre. Ouais. On n'attend pas le dessert et d'être aux cigares.
Alors qu'avant, c'était tabou quand même, quoi.
C'était
peut-être
hommes,
les hommes de leur côté et puis les femmes un peu de leur côté.
Vous disiez parisien, et c'est très vrai que c'est du parisianisme aussi. Je vais me faire l'avocat du diable.
Ouais.
Ça fait plus de 10 ans que je vis à Paris, que je suis totalement dans ma vie de Paris. Mais j'ai vécu toute ma vie à Bordeaux, qui est une ville de province, et je peux vous dire que même encore aujourd'hui, il y a une très grande différence entre Paris et la province. Et c'est très vrai qu'on parle de la liberté dans la sexualité, elle est différente.
Ouais.
En France, suivant les très grandes villes.
Eh bien, nous allons peut-être avoir des témoignages dans un instant, effectivement. 3921 ou par Internet, vous pouvez réagir.
Exactement. Hein. Si vous faites partie de ces femmes qui vont justement dans les sex shops pour acheter des objets coquins.
Dans les nouvelles boutiques.
Dans les nouvelles boutiques, c'est vrai.
Si vous avez des soirées organisées, nous allons en parler effectivement tout à l'heure.
Effectivement, avec des codes couleurs un peu plus pastel, rose, moins effectivement agressifs qu'auparavant. 3921, je.
Et puis ce tabou dans les discussions qui a sauté également.
3921, 34 centimes. Drôle la minute. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1 midi, 11h30, 13h. Patrick Roger.
Le débat d'Europe 1 midi jusqu'à 12h30. Nous parlons aujourd'hui de l'érotisation de la société au féminin et on se pose la question, allons-nous, sommes-nous vers la fin d'un tabou?
Oui, absolument. Avec donc la sortie de ce livre, hein, 50 nuances de Grey, 200 000 exemplaires vendus en 10 jours. Et je vous propose, avant de continuer notre débat, un petit extrait justement.
Je suis une boule de tension sexuelle. Il me dévisage un moment pour évaluer mon degré d'excitation, puis m'attrape tout d'un coup pour me retourner. Mes mains sont encore ligotées. Je dois me soutenir en m'accoudant. Il repousse mes genoux pour me faire dresser face en l'air. Et il les claque durement. Avant que je ne puisse réagir, il plonge en moi. Je crie. Je crie à cause de la claque et de son assaut soudain. Et je jouis instantanément, m'effondrant sous lui. Tandis qu'il continue à me pilonner encore.
Eh bien voilà, donc cette lecture, hein, il y a, on va pas continuer parce qu'il y a quand même 550 pages. C'est assez cru tout de même, non? Philippe Reynaud, vous avez lu les trois tomes.
Moi je trouve pas
mais
cru.
Mais si, non, oui, oui.
Non. Non, parce que la littérature érotique crue, je crois au contraire. Personnellement, je vous donne une opinion de lecteur. J'ai lu le volume français et les trois volumes en anglais. Je connais, je vais vous dire deux mots. Personnellement, je trouve que c'est très soft. C'est pas SM. C'est-à-dire qu'il y a, bien sûr, vous allez avoir, vous êtes vaguement attaché, mais c'est pas ce que vivent vraiment les gens qui sont dans le SM. C'est-à-dire, c'est pour moi, ma lecture, c'est une initiation sexuelle d'abord d'une jeune fille qui commence sa sexualité comme ça, c'est très hallucinant,
oui.
Qui va la commencer par une séduction sadomasochiste, qu'elle va refuser, qui va l'amener en définitive dans le premier volume à être un petit peu à distance, mais à être initiée. Dans le second volume et dans le troisième, elle va connaître et comprendre sa sexualité, et dans le troisième, c'est elle qui y revient,
oui, mais
en demandant, en définitive, j'aimerais bien là que ça commence à m'intéresser.
Oui. Alors Philippe Brenneau, c'est peut-être une lecture masculine. Jeanne Cialelli, et vous, quelle lecture vous avez ? Parce que vous avez défini tout ça tout à l'heure sur l'érotisation au féminin en disant que ce n'est pas tout à fait les mêmes mots, la même façon de voir les choses en fait, hein. Les mêmes fantasmes, quoi.
À dire vrai, je ne l'ai pas lu.
Oui.
Mais je n'ai pas très envie de le lire.
Oui.
Parce que L'Aude Rose...
Ah, c'est entre
L'Aude Rose, j'ai un petit peu passé. Et tant qu'à faire, je préfère avoir des situations qui soient plus dans le réel.
Oui.
L'initiation de la petite jeune fille, on l'a vu dans toute la littérature érotique. Mmh. Alors, ras-le-bol du tonton qui sodomise sa nièce quelque part. Donc, je crois qu'il faut être un peu plus sérieux, que justement le regard des femmes est maintenant un peu différent.
Oui.
Là, on est en Amérique, hein,
oui,
ne
oui,
l'oublions
oui.
pas.
Oui. Catherine Solano.
Moi, je trouve que c'est pas spécialement cru. Alors, elle utilise de temps en temps des mots crus, mais on voit qu'elle se force à les écrire. Vous voyez, à part putain et enfin deux ou trois mots comme ça, il y a que ça, quoi. D'ailleurs, elle a pas beaucoup de vocabulaire, donc c'est toujours les mêmes.
Oui, c'est
et puis il y a très peu de sadomasochisme parce que le passage qu'on a entendu, c'est après la page 300, c'est vers la page 350. Mmh. Donc avant, il n'y a pas du tout de sadomasochisme.
C'est
un petit peu... je sais pas comment dire.
C'est du porno soft, quoi, en fait. Hein.
Oui, mais c'est.
Même
non,
pas.
C'est même pas du. Non, c'est pas de la pornographie. C'est pas très. On s'attaque. Moi, ce que j'ai pas aimé du tout, d'abord, c'est que j'ai ressenti zéro excitation, ça, c'est sûr. Et puis, en plus, on s'attache pas du tout aux personnages parce qu'ils sont pas intéressants, quoi. Enfin, bon, c'est pas fait pour ça non plus, mais moi, j'ai besoin de ça pour être intéressée par un livre. Voilà.
Ouais.
Alors moi, je pense que l'intérêt de ce livre, parce qu'il y en a un certain. Il y a beaucoup de femmes. Plutôt que d'hommes d'ailleurs, hein, qui vont être intéressés par lire le témoignage d'une femme qui vit de l'intimité. Et en définitive, vous ne le voyez pas dans la plupart des parce que ça ressemble à une sorte de polar où il y a un petit peu de sexe, mais d'habitude vous avez quelques pages sur une intimité, alors que là c'est l'objet même du fait de cette accroche sadomasochiste qui l'est pas vraiment, et vous vous dites en définitive c'est aussi un turn page, c'est-à-dire que on va plus loin et on sait qu'il va falloir lire le second tome et le troisième tome.
Je trouve que c'est plutôt un livre sur les préliminaires. Moi, vous voyez, c'est pendant 350 pages, vous avez des préliminaires et vous vous dites, mais quand est-ce qu'on va voir la scène de masochisme dont on nous parle tant ?
C'est
du teasing. Oui.
Ava Wakenin nous a rejoint. Elle est responsable du réseau national Fun Factory et usine à amusement. Bonjour.
Bonjour.
On avait évoqué tout à l'heure avec Jeanne Cialelli ce besoin, ce désir aussi en fait de femmes aujourd'hui d'avoir des objets, etc. Et vous, du coup, vous travaillez en fait sur ce domaine, hein. Donc
oui,
vous le voyez en fait exploser.
Je le vois, on voit les personnes et le phénomène de Fifty Shades of Grey, ça a été où les femmes s'autorisent. Elles s'autorisent à avoir un plaisir et de se dire cette femme qui est toute pure, qui commence à peine sa sexualité, elle a des sensations. Un peu dans le sadomaso, elle a des sensations. Et ben moi aussi, si elle peut, moi aussi je veux. Parce qu'elles ont eu antérieurement des sensations, elles ne s'étaient pas autorisées. Et c'est ce que je remarque. Et c'est ce qu'on remarque sur le terrain, pendant les réunions, où on leur présente les jouets, on leur présente un peu...
Oui, c'est ça. Parce que, dites-nous, hein, vous faites des réunions, un peu des réunions du perroir, version objet sexuel. Hein,
voilà,
c'est ça.
Avec de la cosmétique, avec de la lingerie et des jouets intimes.
Oui. Et ça, dans toute la France, d'ailleurs.
Sur toute la France.
Sur toute la France. Philippe Brenneau nous disait, oui, c'est un phénomène un peu parisien, mais non.
Non, c'est sur toute la France.
Non, ça existe partout. Mais je veux dire, c'est de façon beaucoup plus confidentielle, parce que c'est quand même quelque chose qui touche pas. Mais oui, mais ça touche pas 50% des personnes.
Il y a beaucoup de succès. Ça fait depuis 9 ans qu'on le fait.
Oui, je sais.
Ça fait 9 ans. Et ça fonctionne bien. Au départ, on pensait que c'était un phénomène de mode, hein. Et puis, les personnes,
donc,
la même
c'est
personne.
C'est une véritable demande, en fait, un besoin.
Ouais.
Ce qu'on disait, en fait, tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a, on se libère un peu et on a envie de parler, et puis même de passer, en fait, à l'acte, quoi, à travers des objets. et de chercher en fait des objets en fait de plaisir pour vivre en fait quelque chose de différent quoi.
Mais moi je crois que c'est très bien parce que ça montre de toute façon que les femmes sont ouvertes à vivre leur intimité. Qu'est-ce qui se passait auparavant ? D'abord, tiens, on parlait de la littérature était écrite par les hommes, mais les gens qui expliquaient la sexualité, Freud, Kinsey, ainsi de suite, ont toujours été des hommes. Et puis on a commencé à avoir des témoignages féminins, c'est le rapport Hyde, c'était en 1970, c'est-à-dire que les femmes ont commencé à témoigner. Et aujourd'hui, eh bien, effectivement, il faut qu'elles apprennent leur sensualité, et ce que vous faites, c'est un médiateur pour apprendre la sensualité. La clé de la sexualité, c'est pas le rapport sexuel en lui-même, c'est la sensualité. Et toutes ces voix, que ce soit un livre comme celui dont on parle, que ce soit des jouets, ça amène la sensualité.
Un mot, et puis ensuite, on va marquer une petite pause pour l'étude de midi. Oui.
Ce qui est très étonnant, c'est que les femmes ne se connaissent pas. Elles découvrent. Elles apprennent, elles découvrent. On est obligé de passer par le béaba, de leur expliquer que on est constitué comme ça. On a toutes les zones érogènes en interne, pas en externe, et on développe une sensualité qui est différente par rapport aux hommes. Et c'est très important.
Et c'est en ça que c'est une libération de la parole et puis effectivement des actes. Nous allons y revenir dans un instant. Tout le monde veut réagir dans le studio, mais nous allons y revenir parce que nous avons les titres et nous attendons vos réactions.
39,21, 34 centimes d'euros la minute. Le stand. Standard d'Europe 1 est ouvert, on se retrouve dans un très court instant, c'est promis, à tout de suite. Merci d'écouter Europe 1, il est midi.
Europe 1 midi.
Les titres de l'actualité avec aujourd'hui Raphaël Chapira et vous Patrick Roger.
Oui, on vous retrouve Raphaël pour les titres que l'on développera tout à l'heure dans le journal de midi et demi. Bonjour.
Bonjour Patrick, bonjour à tous.
Alors à la une, cette audience tout à fait étonnante, hein, cet après-midi à Paris, pour un homme victime de racisme anti-blanc.
Et pour la première fois, la LICRA, association anti-racisme, se porte partie civile aux côtés de la victime. Un choix qui fait débat. Nous recevrons le président de la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme tout à l'heure. La fin de l'usine Technicolor à Angers, les 350 salariés y font leur dernier jour aujourd'hui, vous les entendrez. Et puis une épicerie sociale du Secours Populaire cambriolée dans la nuit de mercredi à jeudi. Les bénévoles sont sous le choc.
Dans l'actualité également, la trêve qui est compromise en Syrie.
Elle devait durer 4 jours, les premiers combats ont éclaté dès ce matin. De quoi rendre le travail des ONG sur place impossible, ce cessez-le-feu devait leur permettre de soigner les blessés. Une nouvelle affaire de drogue qui éclabousse la police. Une femme brigadier de Seine-Saint-Denis derrière les verrous, elle est soupçonnée d'avoir aidé le cerveau d'un réseau international de drogue à déjouer la surveillance de la police. Et puis, à 2 mois de Noël, le carton annoncé des tablettes tactiles pour les tout-petits. Attention, tout le monde n'est pas d'accord sur le bienfait des jouets.
Oui, il n'y a pas que le carton de 50 nuances de gris. On vous retrouvera tout à l'heure, Raphaël, à midi et demi. Et puis juste avant 13h, le rendez-vous des auditeurs. Vous appelez au 39-21 pour poser une question sur l'actualité. Et un spécialiste viendra vous répondre. Nous parlerons tout à l'heure du match Fillon-Copé, match nul. Nous verrons ça tout à l'heure. Et puis à midi et demi également, un point complet sur la météo avec vous, Valérie Darmon. Et nous retrouvons une météo perturbée à partir de cet après-midi. J'en perds presque ma voix.
Eh oui, Patrick, vous êtes raccord météo avec beaucoup de pluie dans le sud, notamment sur l'Ardèche, le Gard, la Haute-Loire, la Lozère. Alors pour l'instant, il n'est pas question d'alerte orange du côté de Météo France, même si la situation est surveillée de près. La France entière, de toute façon, est sous les nuages. Et demain, si vous devez prendre la route pour les vacances vers l'est, attention à la neige. Il neigera jusqu'en plaine, entre Belfort et le sud de l'Alsace. Et puis attention aussi aux vents violents sur le pourtour méditerranéen. Ça souffle jusqu'à 120 km/h.
Pas terrible tout ça pour partir.
Pas terrible
en vacances,
du tout. Ça s'arrange dimanche quand même. Et par contre, chute vertigineuse des températures. Dans l'Est, vous perdez 20 degrés.
Oula.
Entre le week-end dernier et demain. Il faisait 23 dimanche dernier, il fera 3 demain.
Ressortez-moi les doudounes et vous revenez tout à l'heure, juste avant 13h.
À tout à l'heure. À tout à l'heure.
Europe 1 midi. Patrick Roger.
Pas une semaine sans sondage sur la sexualité. De plus en plus de love stores envahissent les villes et proposent des sex toys en vitrine. Il y a aussi l'ex-star du X, Clara Morgan, à l'affiche d'une pièce de théâtre à Paris. Alors qu'une semaine nous quittait Sylvia Christelle, l'héroïne d'Emmanuel. On s'intéresse jusqu'à 12h30 à l'érotisation de la société au féminin.
Avec nos invités.
Catherine Solano, médecin, sexologue. Philippe Renaud, psychiatre. Jeanne Cialelli, auteur de la littérature érotique. Également avec nous, Ava Wakenin, elle est responsable du réseau national Fun Factory, usine à amusement. Patrick.
Et nous allons poursuivre avec vos appels au 3921 tout à l'heure et vos réactions sur Internet. Et avant de continuer, bien Sandra Freeman est en train encore de prendre des notes.
C'est
sur
vrai.
Ce qui l'a frappé.
Ah, beaucoup de choses sont frappantes sur ces discussions. C'est vrai, on parle de la libéralisation de la parole, des tabous, mais en réalité, on se rend compte que c'est pas si évident. Lacan disait, il n'y a pas de rapport sexuel, qui ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas de sexualité, mais qu'il était difficile de rapporter le sexe, d'en parler. Et c'est toujours le cas, je trouve, en 2012. Même si, Patrick Roger, vous avez rappelé qu'il y a eu Simone de Beauvoir qui a, vous avez dit, si je puis dire, ouvert la porte, et ça aussi, je trouvais ça assez lacanien, mais au-delà de ces intellos, donc, il y a la libération sexuelle qui se fait doucement depuis les années, depuis 1968. Alors, la libération sexuelle, vous l'avez évoqué rapidement, hein, il y a la libération des corps, mais on n'en est pas vraiment encore là. On a surtout parlé de la libéralisation de la parole. Ce n'est pas une mode, c'est une évolution de mentalité. Le regard de la société est moins dans le tabou. Qu'est-ce qui change? Vous avez montré, Jeanne Cialelli, qu'avant, les écrits érotiques étaient surtout ceux des hommes. Les hommes étant plus des voyeurs, utilisant des mots crus. Et les femmes, elles, aujourd'hui, sortent leurs écrits des tiroirs et abordent les choses de plus en plus de façon subtile, de plus en plus dans l'intime, en gros. Et vous confortez ces approches-là, Philippe Brenneau, en éclairant les choses. Vous dites, nos stimuli, hommes et femmes, sont différents. Les hommes sont plus dans le visuel. Les femmes, elle, plus sensible, plus dans le toucher, plus dans l'auditif. Et aujourd'hui, on arrive dans une société à valeur plus féminine. C'est ce que vous avez dit. Alors, ça veut dire quoi, valeur plus féminine? Avant, on était plus dans le choc visuel, quelque chose peut-être de plus pornographique. Et aujourd'hui, on est mieux dans nos baskets, vous avez dit Jeanne Cialelli. On est peut-être dans une société qui arrive plus à l'érotisme en quittant la pornographie. Vous expliquez d'ailleurs, Catherine Solalo, qu'aujourd'hui, on passe doucement du sadomaso hard, on avait besoin donc de choc, au happy sex, mais c'est pas encore si facile à éditer. Bref, difficile de normaliser la question du plaisir, du désir, de la jouissance féminine, des mots d'ailleurs que vous n'avez quasiment pas prononcés pendant toute cette première partie d'émission, parce qu'il y a encore beaucoup de boulot. Votre témoignage, Ava Wakenin, le prouve. Lors de vos réunions sur les accessoires de plaisir, les femmes découvrent leur sexualité, on leur explique, avez-vous dit, quelles sont leurs zones érogènes en interne. Et c'est vrai que quand on y pense dans nos manuels scolaire, la représentation du corps féminin était finalement sans sexe parce que les femmes n'étaient que matrices.
Merci Sandra Freeman. Et l'éducation scolaire avec l'éducation sexuelle qui pourrait venir effectivement dès le primaire, c'est l'une des propositions cette semaine de Vincent Payon. On verra effectivement comment cela va se concrétiser. Ça a été évoqué en fait, c'est
mais
une
c'est
piste très sérieuse.
Mais c'est déjà obligatoire
depuis
longtemps.
Oui, absolument, mais voilà, c'est ça. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on ne le développe pas effectivement comme s'il y avait encore un certain tabou. Alors, il y a eu quelque chose en fait d'intéressant qui a été dit tout à l'heure, et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup utilisé les mots effectivement sexualité, plaisir. C'est quand même le droit de jouir en fait pour la femme. Hein, on l'avait en fait un petit peu oublié. Catherine
oui,
Solano.
Nous, dans nos congrès, il y a eu des interventions sur plaisir féminin, enfin orgasme féminin, de l'interdit à l'obligation. C'est-à-dire qu'avant, une femme bien n'avait pas de plaisir, ou elle savait à peine que ça existait. Maintenant, il faut absolument qu'elle ait des orgasmes, sinon elle se dit je suis pas à la hauteur, et il faut absolument que son homme se dise j'ai réussi à lui donner des orgasmes, sinon il y a un problème. Donc on est un peu passé d'une pression dans un sens à une pression dans l'autre.
Oui, oui. Philippe Brenneau.
Oui, mais avec le fait qu'il y a plein d'images fausses.
Une révolution qui perturbe un peu les hommes.
Ça perturbe les hommes et les femmes, parce que la chose qui est compliquée, c'est que la sexualité est plein d'idées reçues, vu que ça a été il n'y a pas d'éducation à la sexualité. C'est certainement vous, avec les sextoys, qui faites de l'éducation à la sexualité.
Oui,
et qui vous permettez aux femmes de découvrir que la sexualité est apprise. Et c'est ça qui est le plus grand message. La plupart des gens pensent que c'est naturel, ça va marcher tout seul. Le plaisir féminin, le droit au plaisir. Non, il n'y a pas le droit au plaisir féminin. C'est pas un droit. Il faudrait déjà permettre aux femmes de comprendre que le plaisir vient d'elles-mêmes. Et qu'il vient pas de ce mec qui le... Il y a peu de liens Alors ça, c'est une des choses les plus importantes. Il y a peu de liens entre la performance de l'homme et le plaisir de la femme.
C'est
mais bien sûr, après, il y a des habiletés. Mais je veux dire que si il y a...
Pas aussi évident que ça, les habiletés.
C'est bien un homme qui dit ça.
Bien sûr.
Il y a une découverte de soi.
Catherine Solano.
Si tu parles de centimètres, Philippe, peut-être, mais quand même, les habiletés nécessaires, je dirais qu'il y en a. Mais c'est pas inné chez l'homme. Je dis pas ça pour critiquer les hommes. Je veux dire, les hommes sont nuls au début de leur vie sexuelle. C'est normal. Les filles s'attendent à ce que ce soit le prince charmant qui les fasse découvrir le plaisir. Et ben, ça ne marche pas. Mais en même temps, l'inverse est vrai. Je veux dire, les filles se disent, ils devraient tout m'apporter. Ben non, il faut découvrir à deux. Voilà.
La chose la plus importante, c'est que les femmes, je parle des filles qui ont des difficultés, puissent comprendre qu'elles ont beaucoup plus à trouver en elles-mêmes d'abord.
Et même celles qui n'ont pas de difficultés.
Et les hommes aussi, alors, non, évidemment. Donc, on a besoin finalement.
Femme, hein. On le devient. On ne l'est pas voilà, femme, on le devient. Exactement. Et on n'a absolument pas la même sexualité.
Ah, bah, oui.
On n'a pas la même sexualité à 18 ans, à 30 ans, à 40 ans, et ça va de mieux en mieux.
Vous, dans vos réunions Tupperware du sexe, si je puis dire, vous avez en fait des femmes de quel âge ? Est-ce que ça va de 18 à 70 ans ?
Il y a quelques années, c'était un phénomène qui était très branché, et c'était des petites jeunettes. Donc là, alors il y avait tout à faire, mais elles savaient tout. Maintenant, ça va de, allez, on va dire 20 ans jusqu'à 60 ans.
Mais c'est-à-dire, elles savaient tout sur quoi ?
Elles savaient tout, elles utilisaient déjà des sextoys, mais elles ne connaissaient pas leur corps. C'était un phénomène de mode, donc elles avaient leurs petits jouets, leurs petits canards, leurs petites chenilles qui les faisaient vibrer.
Ouais.
Et elle avait aussi, il y avait le rabbit de Sex in the City. Donc il fallait l'avoir.
Maintenant,
ça a changé.
Mais alors, il n'y a que des femmes dans vos réunions. Il n'y a pas les hommes, vous les initiez également?
Non. Alors, il y a aussi les hommes, et les hommes, ils sont géniaux.
Ouais.
Géniaux parce qu'ils écoutent, ils sont à l'écoute, ils veulent comprendre, ils veulent savoir.
Ils
sont très curieux. Et c'est vraiment, c'est un régal d'avoir les hommes dans les réunions parce que ils sont moins. Ah, c'est drôle. C'est donc ça c'est.
Non, ils sont intéressés. C'est une sorte de formation, d'initiation. Quand je disais tout à l'heure, il devrait y avoir peut-être des formations effectivement en couple.
Oui.
On n'est pas loin de ça. Là,
oui, c'est, en réalité, on réveille, on explique le béaba. Ce sont des choses qu'elles connaissent ou qu'ils connaissent. Et ils ont juste une confirmation. Et j'avais un mot à rajouter, c'est que au départ, quand je commençais, j'expliquais des choses. Je me disais, mais mon Dieu, ils connaissent rien. Mais rien, mais rien. Et j'avais une chanson qui me revenait systématiquement en tête. C'était de Brassens. 95 fois sur 100. La femme s'emmerde en baisant. Qu'elle taise ou qu'elle le confesse.
Allez, on se retrouve dans un instant, justement après ce beau refrain. Et vos réactions au 3921, également sur Internet et la page Facebook Europe 1 Midi.
Europe 1 Midi, 11h30, 13h. Patrick Roger.
L'érotisation de la société au féminin, on en parle jusqu'à 12h30, toujours en compagnie de Catherine Solano, co-auteur de La mécanique sexuelle des hommes chez Robert Laffont, Philippe Renaud qui est psychiatre. Il publie Les femmes, le sexe et l'amour aux éditions Les Arènes, également avec nous Gianne Cialelli, qui vient de faire paraître aux éditions Blanche le train 84-27 en provenance de Genève.
Et voilà, c'est dit. Alors, dans les observations et les remarques sur Internet ou au 39-21, on s'aperçoit finalement qu'il y a encore un certain tabou. Hein. Ce n'est pas complètement levé parce qu'on a du mal à prendre la parole. Il y a par exemple Catherine qui nous dit « On semble dire que les femmes se libèrent, mais par expérience personnelle, c'est l'homme qui m'a initié à la sexualité. Dans l'érotisme, l'homme doit aussi avoir effectivement sa part. » C'est ce que l'on disait en fait tout à l'heure, hein, Catherine de Solano.
La sensualité, l'érotisme, ça se développe à deux en fait. C'est ça, tout seul, c'est beaucoup plus difficile. Hein.
Oui, alors vous n'êtes pas d'accord effectivement.
Non, moi je pense qu'il y a un apprentissage.
Oui.
Il y a un apprentissage de la femme et il faut absolument qu'elle se connaisse pour ouvrir la voie, pour le recevoir. Donc c'est ce que j'ai remarqué. Mais peut-être que je n'ai pas suffisamment d'expérience.
Allez, en ligne, Fabienne est avec nous. Bonjour Fabienne.
Bonjour.
Alors, vous osez, c'est bien, prendre la parole parce que tout le monde n'a pas envie effectivement d'en parler aussi librement et facilement. Hein. Allez-y.
Non, bah écoutez, moi c'est la première fois que j'ai l'occasion de lire un livre qu'on appelle un petit peu porno chic, porno des ménagères.
Oui.
Et très sincèrement, je l'ai vraiment lu en l'espace de 48 heures. Je n'ai pas été du tout choquée de ce que j'aurais pu imaginer qu'il y avait dedans.
Bah, c'est assez soft hein, finalement, c'est ce que l'on disait tout à l'heure, non?
Oui.
Vous l'avez trouvé ou pas?
Tout à fait. Oui, moi j'ai trouvé que c'était soft et effectivement... C'est pas tout le livre n'est pas non plus tourné que sur le sexe. C'est une belle histoire d'amour. Mmh. Et on a hâte, mais vraiment hâte, d'avoir les deux autres livres pour en savoir plus. Et ça nous laisse un petit peu en haleine.
Mais alors, est-ce que voilà. Alors, vous avez aimé effectivement ce livre, puisque Fabienne, vous l'avez dévoré en 48 heures. Mais est-ce que vous n'avez pas été un peu déçu par ce manque de choc, si je puis dire,
eh ben
de
non,
paroles d'écrit plus cru, non?
Non, parce que pour moi, c'est une première.
Oui.
Donc, c'est vrai qu'on m'en avait fait donc toute une éloge.
Oui.
On m'avait dit que c'était un livre qui se vendait par millions d'exemplaires dans les pays étrangers, en Espagne, partout. Et du coup, j'ai été curieuse et je m'attendais peut-être à pire, en fait. Je m'attendais à autre chose et finalement, j'ai pas trouvé ça si hard. J'ai trouvé ça plus au soft.
Oui, absolument.
Et j'ai trouvé que c'était vraiment ce que pourrait, pas dans tout ce qui est expliqué, mais c'est ce que pourrait vivre aujourd'hui une femme, finalement,
dans ses fantasmes. C'est vrai, Fabienne. Un dernier mot. En dehors du livre, est-ce que vous avez le sentiment que la parole se libère entre femmes et qu'on parle aussi facilement que certains hommes de sexualité, d'aventure, en fait, différentes?
Je pense que oui. Travaillant dans un milieu de femmes, puisque je travaille dans la santé, c'est vrai que entre femmes, on aurait tendance à parler de choses un peu intimes. Alors pas à tout le monde évidemment, mais on se confie peut-être un peu plus sur les choses intimes, sur les choses de la vie, sur les problèmes qu'on peut rencontrer. Et effectivement, j'ai l'impression que certains tabous
sont en train de sauter.
Voilà, tout à fait. Tout à
merci
fait.
De votre témoignage, Fabienne, effectivement, de nous avoir appelé au 3921 Europe 1. Ava Bouknine et puis Catherine Solano veulent réagir.
Moi, j'aurais bien aimé savoir si ses pratiques sexuelles avaient changé depuis la lecture du livre.
Ah.
S'il y avait des choses...
Fabienne, vous êtes toujours
Non, oui, je suis toujours là. Alors, effectivement, non. Alors, moi, je vous dis, mon mari l'a lu. Lui, il l'a lu en premier, puisqu'il l'a lu en espagnol, puisque c'est sa cousine qui lui avait conseillé ce livre. Lui l'a lu, moi je l'ai lu et effectivement non, ça n'a rien changé à nos pratiques intimes, rien du tout.
Ouais.
Et moi je voulais juste reprendre quelque chose que vous avez dit, c'est-à-dire que est-ce que les femmes parlent autant de sexualité entre elles que les hommes, mais les hommes ils n'en parlent pas entre eux, c'est ça, pas du tout, ils n'en parlent absolument pas. Ils se vantent ou ils en rigolent ou ils racontent des histoires, mais ils parlent jamais d'eux, enfin sauf quelques rares exceptions, j'en connais mais c'est rare.
Jeanne Ciadelli, vous vouliez
réagir. Oui, moi j'ai l'impression qu'on est dans une bluette là et ça me fait sourire et c'est très bien comme ça que des personnes puissent le lire. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est les tabous. C'est les choses qui sont interdites, c'est les choses dont on ne parle pas. Alors, je vais peut-être choquer, mais par exemple, et je trouve, madame, que ce que vous faites, ces réunions, sont vraiment très intéressantes, parce que ça permet à des femmes d'un âge mûr, par exemple, de venir. Or, la sexualité des plus de 60 ans, vous-même, spontanément, un peu, vous avez dit, on a des personnes jusqu'à 60 ans. Et après 60, 80, 90...
Eh bien, vous croyez pas, c'est bien dire. Il y a Marie-Josée qui est avec nous et qui veut témoigner. Bonjour, Marie-Josée.
Bonjour.
Oui, vous vouliez témoigner.
J'ai 77 ans bientôt.
Voilà.
Je m'élève un peu sur le fait qu'on dirait qu'il y a 50 ans, les femmes, elles étaient complètement frustrées, qu'elles n'étaient pas épanouies. Moi, je me suis mariée à 23 ans, vierge, puisque c'était la mode. J'ai découvert la sexualité, mais ça a été une sexualité très heureuse. On n'avait pas besoin de sextoys parce que je pense qu'on avait assez d'imagination et d'idées, d'amusement. On s'est beaucoup amusé ensemble pendant presque 50 ans.
Oui.
Ensemble,
vous voulez dire avec le maire, avec
votre... Il y a d'autres tabous aussi.
Oui.
En disant que à la ménopause, la libido baisse. Mais pour moi, ça n'a jamais été le cas. J'ai eu autant de plaisir à 60 ans qu'à 40. Et je trouve que c'est dommage, certains préjugés.
Oui.
Je pense que si on est bien avec quelqu'un, si on a du plaisir à vivre ensemble, ben ça se concrétise.
Marie-Josée, toujours avec le même homme.
Oui.
Oui.
Oui, oui.
C'est un super beau témoignage.
Ça fait plaisir. Magnifique.
J'espère que ça donnera aux femmes de 80 ans et plus.
Allez,
toujours bien.
Merci Marie-Josée d'avoir témoigné. On poursuit dans un instant après une petite pause avec nos invités et vos témoignages au 39-21.
Europe 1 midi, 11h30, 13h.
Et jusqu'à 12h30, je vous rappelle qu'on s'intéresse à l'érotisation de la société au féminin. On en parle avec nos spécialistes ici en studio, mais aussi avec vos témoignages qui nous parviennent au 39-21.
Oui, on a fait un magnifique témoignage tout à l'heure de Marie-Josée. Et nous avons Catherine qui est en ligne au 39-21. Bonjour Catherine.
Bonjour.
vouliez témoigner ou poser une question à nos invités?
Non, je voulais témoigner parce que j'écoute toujours avec beaucoup de plaisir vos émissions le midi.
Merci.
Et ce sujet me touchait particulièrement. Alors, moi, je n'ai pas encore lu ce livre, je l'ai commandé. Mmh. J'ai un peu découvert une sexualité un peu différente quand la première fois que j'ai lu le premier livre d'Emmanuel, et notamment la scène de l'avion. Je crois que toute ma vie de femme m'est restée imprimée parce que je trouvais que c'était d'une telle sensualité sans beaucoup voir... sans voir beaucoup de choses à l'écran. Et ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai 50 ans. Vous avez parlé de beaucoup de choses, notamment de formation. Mmh. Et j'ai la chance d'avoir un époux qui est à mes petits soins, avec qui je m'entends très bien sexuellement. Mmh. Nous sommes, entre guillemets, coquins, libertins, sans avoir franchi d'étape avant cette année, depuis plus de 20 ans, nous avons découvert ensemble ce milieu particulier et ça nous a énormément apporté.
Milieu du libertinage,
Oui, mais sans pratiquer. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, ça nous permettait d'aller danser dans des endroits, pour certains très beaux, puisque nous sommes en province. Ça nous a aussi amené à prendre conscience de notre sexualité, de nos envies, de parler beaucoup. Oui. Et je dis souvent à mon mari, quand nous sommes dans ces endroits-là, quelle chance nous avons. Quelle chance nous avons parce que nous faisons de belles rencontres. Et quand je dis des belles rencontres, je ne parle même pas de sexualité. Je parle de gens avec qui on peut parler vrai, avec qui les choses sont sincères. Et puis effectivement, là, depuis un an, nous avons franchi une étape qui est celle...
Il y avait donc du voyeurisme dans un premier temps, c'est ça, Catherine?
Pas vraiment du voyeurisme. Je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Oui. C'était un besoin de sensualité qui allait au-delà du fait d'être à deux et qui était de la complicité.
C'est une forme aussi de renouvellement peut-être dans le couple. Hein. Voilà, c'est
exactement,
ça. Philippe Bréhneau.
Tout à fait.
Oui. Oui, merci de votre témoignage, hein, Catherine.
Je
passionnant, effectivement. Merci beaucoup.
Alors, ce qu'évoque Catherine, c'est...
Et bonjour à la Bretagne.
Voilà, c'est une...
Et c'est Breton qui parle.
Une liberté. Alors, ce qu'on appelle libertinage, c'est quand même l'échangisme.
Oui.
Même si elle dit, on n'est pas forcément passé à cela. C'est quelque chose, personnellement, que je ne recommande pas. Mais si les deux le désirent, pourquoi pas, ça peut être intéressant, épanouissant. Il faut savoir que c'est quand même peu répandu, hein, même si beaucoup de gens en parlent. On parle beaucoup des comportements minoritaires dans la sexualité. Par contre, moi, je dirais qu'il y a une sorte d'excitation qui peut être donnée au couple par le fait soit d'approcher ces lieux. Moi, je connais des gens, effectivement, comme elle dit, qui vont être dans un lieu d'échangisme sans pratiquer l'échangisme, parce que là, ça, c'est même quelque chose qui existe au niveau animal. La multiplicité des coïts excite au coït, ça excite. Oui, on se trouve comme si on était sur le plateau de tournage d'un film.
Ouais. Alors, mais ça renouvelle, après, vous avez entendu.
Après, je crois qu'il ne faut pas qu'il y ait de... Alors, ça peut être une...
Alors, moi,
il ne faut pas
Catherine
qu'il y ait de
Solano.
Pression
oui,
de l'un
je
sur l'autre.
Je dirais que dans mes consultations, je vois uniquement des couples qui ont des catastrophes après avoir essayé l'échangisme. Pratiquer ou en avoir parlé, donc il ne faut pas non plus. Et je vois des couples aussi qui disent en public, à la télé, l'échangisme a sauvé notre couple, et qui viennent consulter après parce que ce n'est pas du tout vrai. Donc il ne faut pas croire que ça soit une solution miracle, très loin de là.
Alors les solutions miracles, puisque vous l'évoquez en quelques mots.
Ben, on entendait Jeanne tout à l'heure, je crois s'appeler cette dame, qui disait ben, en fait, c'est l'imagination. Tout simplement, elle disait, elle a été avec le même homme pendant, je ne sais pas, 50 ans. Elle dit, on a de l'imagination et de partager peut-être
alors,
l'imagination.
Oui, c'est vrai. Alors, tout ça, c'est bien, mais c'est très politiquement correct par rapport, en fait, à ce que l'on voit, en fait, aujourd'hui. Hein, Jeanne Cialelli, vous avez, vous, évoqué, en fait, une forme de chasse. En fait, vous avez dit, en fait, les cougars également. Est-ce que c'est fauté véritablement aussi?
Non, moi, je crois que, en fait...
Pour relancer, vivre une sexualité, quoi.
Non, non, mais en fait, je pense qu'il faut faire ce dont on a envie de faire, ce qu'on a envie de faire exactement. Or, si vous voulez, maintenant, la littérature érotique a changé. Justement, on n'est plus dans des littératures hardes et violentes et rebutantes. On est dans le porno uniquement sur Internet et sur les images. On n'est plus dans la littérature de cet ordre. Et c'est pour ça qu'il faut revenir, peut-être... ce livre est un bon exemple. Il y a d'autres livres érotiques et je trouve que c'est intéressant, ça. Et puis encore une fois, je crois que on va briser d'autres tabous.
C'est-à-dire ?
Je parlais tout à l'heure de la sexualité des femmes, mais il y a la sexualité aussi des personnes handicapées. Il y a la sexualité de. On va vers autre chose encore, mais on y va maintenant doucement parce que il y a eu une espèce de vague brutale, et puis maintenant on prend du recul et on essaye de décortiquer ce qu'il y a derrière. C'est du moins ce que j'ai pour ma part essayé de faire, et je crois que la société d'édition aussi essaye de trouver des choses qui ne soient plus simplement que des récits érotiques basiques de la petite jeune fille qui se fait déflorer.
Voilà, c'est une très bonne conclusion. Philippe Bonneau, vous vouliez dire un mot ?
Simplement la solution, vous disiez, ou des recettes, parce que tous les auditeurs, auditrices écoutent ça. C'est deux choses. C'est l'une, ce qu'on disait, c'est se connaître, et je crois qu'on a bien évoqué ça. Et puis, la solution, elle est dans la sensualité. Elle n'est pas, il faut imaginer que c'est tout ce qui précède qui va permettre le développement de la sensualité, avec l'imaginaire dont on parlait.
Bien sûr, les fantasmes, c'est ça. Effectivement.
Mais c'est la sensualité qui concerne, qui résume l'entièreté, moi je dirais, de la sexualité.
Et le désir aussi.
Mais ça fait partie de la sexualité.
Voilà, effectivement, on va rappeler vos livres, effectivement, Désir, Séduction, effectivement, c'est ce qu'il y a dans tous ces livres.
Oui, je vais rappeler celui de Catherine Solano, c'est le volume 2 de La mécanique sexuelle des hommes consacré à l'érection, disponible chez Robert Laffont. Je rappelle également le livre de Jeanne Cialelli, aux éditions Blanche, Le Train 84-27 en provenance de Genève. Et Philippe Bruneau publie Les femmes, le sexe et l'amour, 3000 témoignages, c'est ça, de femmes, disponible aux éditions des Arènes. Et puis sans oublier le site de Madame Ava Wakenin, Fun Factory, c'est une usine à amusement. Voilà, des idées pour le week-end.
Et voilà, et pour le week-end, il y a un changement d'heure. Vous savez qu'il y avait quelqu'un qui disait à propos de l'amour, je fais l'amour plus d'une heure, uniquement les nuits de changement d'heure. C'est ce week-end, effectivement, que l'on change d'heure. Et nous parlerons, c'est une petite transition, comme on fait comme on peut.
Exactement.
Puisque lundi, nous parlerons du sommeil.
Ah bah voilà, c'est parfait. Donc il est donc midi 28 sur Europe 1. A tout de suite pour le journal de la mi-journée.